Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Il n'y a pas que le 8 mars. Avec moi en studio, l'équipe Natacha.
Bonjour.
Michel.
Bonjour.
Et Joël.
Bonjour.
Ce mois-ci, notre émission essaie de coller encore plus à l'actualité avec un rapport paru en début d'année plutôt inquiétant et des infos qui nous arrivent de tous côtés qui ne vont pas forcément nous rassurer.
Et oui, le Haut Conseil à l'égalité a récemment publié son rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France. Et cette année, son rapport est consacré à la menace masculine. Pour le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, les masculinismes sont une expression de ce qu'il nomme le sexisme hostile. Le sexisme hostile est un sexisme violent se traduisant par une hostilité envers les femmes et pouvant inclure des attitudes agressives ou dévalorisantes, explique le rapport. Le HCE considère ainsi que les masculins constituent en France, je cite, une menace à l'ordre public et un enjeu de sécurité nationale.
Et on en parle aujourd'hui. Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B. Et pour commencer, on tient à vous dire que le sujet du masculinisme n'est pas hyper évident à aborder. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. Ces derniers jours, c'est même la DGSI qui alerte les médias sur un potentiel terrorisme masculiniste. Alors forcément, c'est posé plein de questions en préparant l'émission.
Eh oui, et de quoi parle-t-on exactement? Qui sont les masculinistes? Que veulent-ils? Quels sont les discours? Pourquoi ces discours rencontrent du succès auprès des jeunes hommes en particulier? Est-ce la faute aux réseaux sociaux? Quel lien avec l'extrême droite et faut-il vraiment s'inquiéter?
Et comme d'habitude, pour prendre le temps, on s'est dit qu'il fallait faire un retour historique et repartir sur un premier concept, celui de la virilité. Michel, tu as lu l'essai de la philosophe Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité.
Oui, Le mythe de la virilité, donc publié en 2017. L'autrice décrit l'idéal viril comme une construction historique, culturelle et sociale qui s'est avéré être une arme d'oppression pour les femmes, mais aussi un fardeau destructeur pour les hommes eux-mêmes.
Et elle aborde plusieurs hypothèses.
La thèse centrale, la virilité comme construction et comme piège. Gazalet sépare d'emblée le masculin, qui est une identité biologique et anatomique, de la virilité, qui est un système de valeurs, force, courage, domination et invulnérabilité. Cette invention historique exige de l'homme une performance permanente.
Et cela conduit à un double piège.
Oui, pour les femmes, avec la légitimation de leur infériorité, leur assignation à la sphère domestique et la confiscation de leur pouvoir politique et sexuel. Et pour les hommes, en leur imposant une mutilation émotionnelle. Un vrai homme s'interdit la peur, les larmes, la vulnérabilité, mais embrasse la culture de la violence et de la performance.
Ça nous amène à la construction d'un mythe.
En première partie, l'histoire culturelle de la virilité, depuis la préhistoire et l'Antiquité, jusqu'à l'époque moderne, à travers les récits mythologiques, médicaux et religieux, qui ont sacralisé la puissance masculine. Cette affirmation, être un guerrier et un géniteur, entraîne la nécessité d'être absolument performant pour éviter la honte de déchoir, angoisse de la peine, de la lâcheté et de la soumission.
Avec depuis toujours cette notion de crise de la virilité.
Oui, Gazalet la décrit comme un phénomène récurrent chaque fois que les structures sociales bougent. Elle recense plusieurs moments. La fin de la chevalerie médiévale, l'apparition de la bourgeoisie au XIXe siècle où la puissance de l'argent remplace la force physique des duels, par exemple. Et bien sûr, l'émergence des mouvements d'émancipation des femmes avec l'accès au travail, la contraception, le droit de vote.
Et elle parle même des pathologies de la virilité contemporaine.
Dans la seconde partie, Gazalet dresse le bilan des coups collatéraux de ce mythe de notre époque. Ne pas pouvoir exprimer sa souffrance mène à des comportements autodestructeurs. Surreprésentation des hommes dans la population carcérale, les accidents de la route, les suicides, les actes violents, l'alcoolisme. Face à la perte de leurs privilèges traditionnels, certains hommes basculent dans le ressentiment ou la radicalité. Masculinisme agressif, repli identitaire.
Et elle encourage à aller vers une post-virilité.
Oui, l'ouvrage ne se veut pas un réquisitoire anti-homme. Bien au contraire, c'est un appel à une alliance pour démanteler le patriarcat. Pour Ghazaleh, la véritable révolution féministe ne pourra s'accomplir que si les hommes opèrent leur propre révolution culturelle en s'affranchissant de l'injonction, de virilité. Elle propose le concept de post-virilité, qui n'est pas une castration ni une féminisation des hommes, mais une libération. Le livre se termine par une note d'espoir humaniste, affirmant que la fin du mythe de la virilité est la condition sine qua non d'une égalité réelle et un apaisement des relations amoureuses et sociales.
Ok, alors là, dans l'essai d'Olivia Ghazaleh, on comprend que la virilité, c'est une construction, tiens donc, et que finalement, la virilité, la masculinité seraient en crise depuis toujours. Mais alors, quand est-ce que le concept de masculinisme apparaît ?
Ce concept de masculinisme s'est installé en réaction aux différentes vagues du féminisme, surtout aux USA. Fin 19e, début 20e, l'idée d'une virilité menacée émerge avec l'industrialisation et les premiers mouvements suffragettes. Les femmes commencent à travailler dans différents milieux et cela crée une anxiété chez certains hommes.
Et à un moment charnière dans les années 70.
Aux USA, avec les Men's Studies. Avant les années 70, l'histoire et les sciences sociales se concentraient quasi exclusivement sur les hommes, en les considérant comme la norme universelle neutre. Certains chercheurs, souvent influencés par les mouvements de libération des hommes, commencent à étudier l'homme non pas comme un être universel, mais comme un être genré. On voit arriver les Men's Studies qui reposent sur plusieurs idées fondamentales. Il n'existe pas une seule façon d'être un homme. Les expériences varient selon la classe sociale, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle et l'époque. La masculinité hégémonique associée au pouvoir, à l'indépendance économique, à la force physique et à l'hétérosexualité s'impose aux autres hommes et opprime les femmes. Les chercheurs étudient la pression sociale qui pousse les hommes à cacher leurs émotions, à prendre des risques démesurés ou à négliger leur santé physique et mentale pour rester des hommes.
Et alors, quelles sont les problématiques étudiées ?
Pourquoi les hommes consultent-ils moins les médecins ? Quels sont les facteurs derrière le taux de suicide plus élevé chez les hommes ? Comment évolue le rôle des pères dans la société américaine moderne ? Comment la couleur et la classe se croisent avec le genre ? Par exemple, l'expérience scientifique des hommes noirs ou des hommes gays aux USA. Pourquoi ce sont les hommes qui ont des comportements violents ? Ensuite, deux courants distincts apparaissent au sein des Men's Studies aux États-Unis. Un courant pro-féministe et un courant Men's Rights, droit des hommes. Certains hommes soutiennent la deuxième vague du féminisme. Ils considèrent que le patriarcat et les stéréotypes de genre nuisent aussi aux hommes. Pression à la réussite, répression des émotions. Ils cherchent à libérer l'homme des injonctions de la virilité classique.
Et on voit aussi l'inverse.
Oui, des auteurs comme Richard Doyle commencent à affirmer que les hommes sont les nouveaux opprimés. Ce courant se focalise sur le divorce et la garde des enfants et le sentiment de dépossession du pouvoir domestique.
Et plusieurs courants commencent à émerger.
Alors dans les années 80-90, le mouvement mytho-poétique porté par Robert Bly, auteur d'Iron Jones. Ce courant n'est pas forcément politique mais spirituel. Il incite les hommes à retrouver l'homme sauvage, leur homme sauvage intérieur, via des rites de passage loin des femmes. Des auteurs comme Warren Farrell publient des ouvrages comme « The Myth of the Male Power ». Il y soutient que l'homme est sacrifié par la société. Guerre, travaux dangereux, suicide.
Et ça se corse depuis les années 2000 avec la caisse de résonance d'Internet notamment.
Oui. Et on peut se demander si c'est un mouvement social et politique uniforme? Est-ce qu'on peut parler d'idéologie ou de discours différents? Alors, les auteurs ne sont pas tous forcément d'accord là-dessus, enfin les gens qui ont travaillé dessus. En tout cas, ce qui apparaît, c'est que ce n'est pas un mouvement uniforme, mais plutôt une nébuleuse avec plusieurs catégories de masculinistes. Les masculins ne sont pas tous d'accord entre eux. Cependant, ils partagent une idée commune, un projet commun et un ennemi commun, la femme, et le projet commun, défendre le patriarcat, la domination masculine et contester l'égalité femme-homme.
Le courant masculiniste se divise en deux grandes tendances. L'une axée sur des questions juridiques et familiales, l'autre davantage ancrée dans une réaction culturelle et identitaire.
Concernant le premier axe, on va retrouver les MRA, les Men's Rights Activists aux États-Unis. C'est un mouvement, c'est le mouvement le plus ancien, tu l'évoquais Michel. Ils défendent les droits des hommes, des droits qui seraient attaqués par les politiques d'égalité. Leurs revendications concernent le droit de garde des enfants, la reconnaissance des hommes victimes de violences conjugales, le partage des biens après un divorce, et il développe une rhétorique victimaire. En France, ce courant est représenté par des associations comme SOS Papa.
À ce propos, un fait divers récent, le cas de cet ancien policier, Cédric Prison, accusé du double féminicide de sa femme et de son ex-femme, après les avoir enlevés ainsi que ses enfants. Il est avéré que cet homme fréquentait depuis plusieurs années des groupes de pères en colère. Dans une enquête du média Basta, le sociologue Édouard Leport, auteur de l'essai « Les papas en danger, les pères à l'assaut des droits des femmes », explique à propos de Cédric Prison, il y a tous les ingrédients. Un ex-policier, père en colère, qui a fait des actions devant un tribunal, qui a eu des condamnations, c'est presque une caricature. Et dans ce dossier, la justice a l'air d'avoir réagi à la mesure des enjeux à chaque étape, sauf dans la protection de son ex-conjointe et de sa nouvelle compagne. Cédric Prison a perdu son droit de garde en 2021 parce qu'il avait déjà enlevé son fils. En 2023, il est condamné à nouveau pour le harcèlement de son ex-femme sur les réseaux sociaux. Dans les groupes de discussion en ligne, moi je suis allée faire un tour sur ces groupes de SOS Papa, ces hommes dénigrent systématiquement les ex-compagnes et s'appuient souvent sur le même discours. Elles sont folles, elles sont dangereuses pour leurs enfants. Et la justice empêche ses pères d'exercer leur autorité au profit de la mère. Or, les chiffres parlent, 82% des séparations de couples avec enfants se font en fait sans problème, sans litige autour de la garde.
Alors le deuxième courant, c'est un courant identitaire, antiféministe, qu'on appelle la manosphère. Ce courant perçoit les avancées du féminisme comme une menace directe pour les hommes. L'idéologie est là. Il développe l'idée d'une crise de la masculinité ou d'une féminisation de la société. Les hommes sont devenus les nouveaux opprimés ou les dominés du système actuel, très actifs sur les réseaux sociaux.
Et ils ont des concepts clés.
Ce milieu emprunte beaucoup de concepts à la manosphère anglophone, tels que les théories des incels, célibataires involontaires, les notions de mâle alpha-bêta ou la métaphore de la red pill. Prendre conscience d'une prétendue matrice féministe qui dirigerait le monde. Pour la majorité des chercheurs, comme la sociologue Mélanie Gourarier, le masculinisme moderne n'est pas une simple quête d'égalité, mais un mouvement de résistance aux mutations des rapports de genre. Il vise à préserver et à restaurer des prérogatives masculines traditionnelles face à l'émancipation des femmes. Les observateurs politiques constate une porosité croissante entre certains discours masculinistes en ligne et les mouvements de droite identitaire ou nationaliste qui intègrent la défense des rôles traditionnels de genre dans leur programme politique.
Alors Michel, là tu as donné des noms de groupes masculinistes. Natacha, tu as pu un peu détailler ?
Eh oui, alors les incels qu'évoquait Michel pour involuntary celibate. Les célibataires involontaires. Francis Dupuy-Déry, chercheur franco-canadien un peu spécialiste de ces questions, préfère lui parler de chaste involontaire. C'est la catégorie la plus connue aujourd'hui et sans doute la plus radicalisée. Il déteste ouvertement les femmes à qui il reproche de ne pas fournir les relations affectives ou sexuelles auxquelles ils auraient droit. On retrouve une autre catégorie, les pick-up artists, qu'on peut traduire par artistes de la drague, des coachs de la séduction, en somme, dont l'objectif est d'aborder un maximum de femmes et d'avoir le plus de relations sexuelles possibles. Les discours et pratiques proposées sont en fait des méthodes clés en main qui s'apparentent à une véritable stratégie de l'agresseur afin de créer les conditions permettant la commission de violences et de viols dans un climat d'impunité, estime le rapport du Haut Conseil à l'égalité qu'on évoquait plus tôt.
Et oui, les pick-up artistes caricaturent le féminisme, hein, par exemple en se jouant de la galanterie. Ils supposent en effet que les féministes rejettent toute forme de galanterie. Alors ils décident d'inverser les codes et mélangent galanterie et machisme. En France, deux noms bien connus pour illustrer les pick-up artistes. Alain Soral, qui a écrit un essai « Sociologie du dragueur » ou un autre essai « Vers la féminisation » ou bien encore Éric Zemmour dans « Le premier sexe » qui défend un droit à la drague.
Oui, et autre catégorie, les MGTOW, Men Going Their Own Way, les hommes qui suivent leur propre chemin. Alors lui, c'est un mouvement qui se distingue des autres dans la mesure où il s'agit là de prendre ses distances avec les femmes qui sont jugées superficielles, toxiques, manipulatrices, dangereuses. Donc là, il s'agit de se retirer volontairement de toute relation avec les femmes.
Et pour avoir un aperçu de ce que pensent et racontent ces hommes, je vous suggère le documentaire Louis Théroux, plongé dans la manosphère, à voir sur Netflix. Alors Louis Théroux, c'est un journaliste américano-britannique qui se revendique du gonzo journalisme. C'est une forme de journalisme où le journaliste se met en scène et a un regard très subjectif sur les arguments qu'il déploie. En gros, c'est un peu la méthode Michael Moore. Dans ce documentaire-là, on rencontre quatre influenceurs américano-britanniques. Tous relèvent de la manosphère et tous sont suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Certains en dehors de YouTube parce qu'ils en ont été bannis. La plupart d'entre eux a une ou plusieurs condamnations judiciaires. Tous sont anti-féministes et prônent des théories de domination des femmes. L'un d'entre eux est polygame, l'autre prône la drague de rue, la monétisation des femmes sur des applis en ligne ou via l'industrie du porno. Ils sont tous ultra-capitalistes, hein. Certains suggèrent même d'aller au-delà et d'investir dans les crypto-monnaies. Ils ont le culte du corps, derrière certains ont commencé avec des vidéos de fitness et sont tous homophobes, antisémites et racistes. Plongés dans la manosphère, la bande-annonce, accrochez-vous.
Un homme inoffensif ne sera jamais vu comme un homme qui a réussi. On ne peut pas être faible.
Opposer les hommes aux femmes, c'est attaquer la masculinité.
Si ta meuf va en boîte alors que tu lui as dit non, détruis sa putain de vie.
Il y a quelques années, j'ai remarqué qu'une partie d'Internet était envahie.
Maintenant, il est temps de vous réveiller, les gars. Réveillez-vous.
Envahi par un certain groupe d'influenceurs.
On est le dernier rempart qui résiste à ces putains de conneries.
Ils prétendaient donner aux jeunes hommes les clés pour réussir dans la vie.
Je me suis fait 6000 livres avant de sortir du lit.
Ils avaient des millions de followers.
Super. Les femmes.
Quoi?
À mort les gays.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Ils disaient avoir accès aux plus hautes sphères du pouvoir.
Trump est le futur du monde occidental. C'est un ami et je vais l'aider.
J'ai eu envie de savoir d'où venaient ces croyances extrêmes.
On fait la guerre aux hommes forts.
Et s'ils étaient vraiment ce qu'ils prétendaient?
J'ai couché avec 2000 femmes et c'est un sacré accomplissement.
Il se méfiait profondément des médias traditionnels, mais après des mois d'efforts, j'ai trouvé un moyen d'infiltrer ce milieu d'hommes qui cherchent à redéfinir ce que signifie être un homme.
Et en France, nous ne sommes pas en reste. Un autre documentaire à regarder sur France Télé, Mascu, les hommes qui détestent les femmes, par le journaliste Pierre Gault. Il s'est infiltré dans différents groupes masculinistes. Le documentaire est aussi en ligne sur YouTube. Un extrait.
Tout a commencé par un simple message. Je ne sais plus très bien ce que je faisais. Je devais arroser mes plantes ou lire le journal. Mais bon, une chose est sûre. Après avoir lu ce message, j'ai plongé dans une enquête qui m'a bien secoué. Pendant 9 mois, J'ai regardé des centaines de vidéos assez dark.
Une femme qui a couché déjà avec plus de 5 mecs, c'est une femme qui n'a aucune notion du respect de son corps. Certaines finissent même par devenir des poubelles à sperme.
J'ai appris à me battre comme un homme, en pleine forêt.
Là, je vais te bloquer les mains.
J'ai suivi des tutos pour devenir un mâle alpha.
Et moi, je peux t'assurer que je suis la clé de ce changement.
Je me suis aussi fait insulter par un youtubeur.
Bonjour.
Et j'ai même fini par draguer dans les rues de Paris.
Non, je voulais juste te dire que t'étais très jolie.
Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'ai infiltré ce qu'on appelle les masculinistes.
Les femmes sont attirées par les hommes qui sont supérieurs à elles.
Oui, il y a des différences au niveau des salaires, mais ça s'explique aussi simplement parce que les femmes sont beaucoup moins ambitieuses que les hommes.
Une femme, c'est comme du lait. Faut vite le consommer avant la date de péremption. Alors qu'un homme, c'est comme du vin. Ça va devenir un grand cru.
On va voir comment tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect. Tu dois la punir, tu dois te faire respecter.
Ça veut dire qu'une femme qui vous fait une dinguerie, elle ne doit pas repartir vivante.
Revenons au point de départ. Il y avait quoi dans ce message? Eh bien, un lien vers une vidéo.
Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu deviennes exigeant avec les femmes. Parce qu'on a donné trop de pouvoir aux meufs et qu'on a volé du pouvoir aux hommes. Je suis là, moi, le Kylian, le sensei, pour redonner le pouvoir aux hommes.
Je découvre un youtubeur en Marcel. Pendant 12 minutes, il va encourager les hommes à reprendre le pouvoir qu'ils auraient perdu. Clairement, il a l'air en colère contre les femmes.
Donc arrêtez de tout le temps vous laisser niquer, arrêtez de vous laisser émasculer par les meufs. Tu as le droit de poser tes couilles sur la table et de dire non, tu as le droit de te comporter en homme. Ce qu'ils appellent aujourd'hui dans la société la masculinité toxique, c'est juste de la masculinité classique. Come on, pilule rouge, MGTO ma gueule, on est là, on va changer le game encore une fois. Let's go!
Mais c'est qui ce mec? Kylian Sensei. Motivateur masculin. Il affiche 187 000 abonnés sur YouTube et 176 vidéos. Il parle de musculation, pas mal de sexe aussi. Et puis, il y a beaucoup de vidéos sur les femmes. D'après lui, elles seraient menteuses, vénales, castratrices et aussi manipulatrices. Ça fait beaucoup. Des mecs comme Kylian Sensei, en réalité, il y en a plein. J'en compte 103, sur YouTube, Instagram et TikTok. Dans leurs stories et vidéos, un mot revient en boucle.
Aujourd'hui, on va parler de la red pill.
Tout le monde n'est pas fait pour la red pill.
La red pill, ce savoir red pill.
Red pill, ça c'est la pilule rouge.
La fameuse pilule rouge que tu évoquais plus tôt, Michel. Je vous conseille le documentaire pour aller voir de quoi il s'agit. Bon, c'est quand même hyper inquiétant, ce documentaire. Enfin, voilà, là, vous avez entendu un extrait. Ça noue le ventre, hein, quand même. Un peu comme ce rapport là, du Haut Conseil à l'égalité.
Oui, dans son dernier rapport sur l'état du sexisme en France, le Haut Conseil à l'égalité alerte sur la prolifération des discours masculinistes en ligne. L'institution souligne que ces contenus contribuent à banaliser les violences sexistes et sexuelles et à ancrer des réflexes misogynes chez les jeunes hommes. La vigilance s'est également accrue concernant les risques de cyberharcèlement ciblés contre les militantes féministes, ainsi que le risque de radicalisation violente associé à certaines communautés en ligne particulièrement hostiles aux femmes.
Oui, et le rapport souligne aussi que les jeunes générations sont particulièrement touchées par un bombardement massif de contenus numériques. Les algorithmes des réseaux sociaux qui mettent en avant les contenus qui font réagir, qui produisent des commentaires, etc., participent clairement à la prolifération de ces contenus. Pour son travail d'enquête, la journaliste indépendante Pauline Ferrari, autrice de l'ouvrage paru en 2023 « Formée à la haine des femmes », a notamment créé des faux comptes TikTok de jeunes hommes pour voir à quelle vitesse les contenus masculinistes arrivaient sur les fils d'actualité de ces deux comptes. Et elle s'est aperçue que c'était le cas en moins de 15 minutes, sans avoir sollicité explicitement ces contenus, mais simplement en ayant exprimé un intérêt pour des sujets comme le sport, la drague, la rupture amoureuse, etc. Mais alors, c'est la faute des réseaux sociaux. Et si on ferme les réseaux, les masculins disparaissent. Écoutons un extrait d'un interview de Pauline Ferrari pour la chaîne YouTube Nouvelle Pensée Critique.
Moi, je suis dans une position de ne pas pointer du doigt que les réseaux sociaux. C'est-à-dire de ne pas dire « c'est la faute aux réseaux sociaux » comme certains politiques peuvent le faire de manière un peu simpliste, je pense. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, Internet, c'est un miroir grossissant de notre société. Et en fait, si la misogynie existe sur Internet, c'est parce qu'elle est aussi présente dans notre vie hors ligne. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de décideurs qui ont tendance à l'oublier et qui ne connaissent pas forcément ces enjeux. Ceci étant dit, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée réactionnaire et conservatrice a toujours été très, très présente sur Internet. En fait, il y a eu tout un discours de la part de la droite et de l'extrême droite, des mouvements anti-genre, des mouvements masculinistes, de dire bah, « puisqu'on ne donne pas la parole dans les médias mainstream et traditionnels, on va créer nos propres circuits médiatiques ». Et donc, sur YouTube, sur Instagram, sur Telegram, sur des réseaux plus ou moins chiffrés. Et donc là-dessus, l'extrême droite a toujours été très très présente en ligne, les mouvements conservateurs aussi. Donc c'est pas très étonnant en fait qu'on retrouve du masculinisme là-dessus. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au fur et à mesure où les réseaux sociaux avancent, il y a certaines professions qui se sont professionnalisées justement, c'est-à-dire que maintenant, être influenceur, c'est un métier. Et donc, ce qu'on retrouve chez les masculinistes, c'est aussi des influenceurs du masculinisme, des gens dont c'est le métier de faire ce type de contenu, de le transmettre, de le partager. Et donc, ces influenceurs du masculinisme ont les mêmes moyens d'action, les mêmes visées économiques que des influenceurs traditionnels, beauté, lifestyle, mode.
Pourquoi ça marche ? Dans son travail, Pauline Ferrari met en évidence le lien entre masculinistes et désinformation. Pour Pauline Ferrari, les hommes, les ados en particulier, les jeunes hommes, sont confrontés à des difficultés, des questionnements, des inquiétudes réelles. Et à ces problèmes réels, les masculins vont proposer un ennemi commun, les femmes, et répondre par des solutions faciles, fausses, des récits conspirationnistes.
En fait, je pense que les masculinistes répondent à des souffrances ou en tout cas à des ressentis qui sont réels chez certains hommes ou certains jeunes hommes, notamment chez les adolescents. En fait, l'adolescence, c'est une période qui est vraiment compliquée pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que des fois, l'école, c'est compliqué, avec les parents, c'est compliqué. On se pose plein de questions sur qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Est-ce qu'on va un jour connaître l'amour? Est-ce qu'on va un jour avoir confiance en soi? On n'est peut-être pas très satisfait avec son physique, etc. Et en fait, à tous ces questionnements-là très pesants, et qu'on ne peut pas en parler à ses potes, qu'on ne peut pas en parler à sa famille, on se tourne vers Internet. Et ça paraît absolument normal dans l'ère dans laquelle on est. Et donc, ces influenceurs masculinistes ont très bien compris que c'était des terrains de fragilité, en fait. Tout comme la garde des enfants ou le divorce peut être un terrain de fragilité, comme n'importe quelle rupture amoureuse ou sociale peut être un terrain de fragilité. Et donc, en fait, les masculinismes agissent un peu comme des... Enfin, moi, je considère que c'est des théories du complot et des théories conspirationnistes. Et dans ce sens-là, elles fonctionnent comme telles. C'est-à-dire qu'elles offrent des modèles et des réponses clés en main à des souffrances, à des ressentis, à des problématiques qui sont très complexes.
Et parmi les contre-récits, les théories du complot que développent les masculinistes, on en a évoqué plusieurs depuis le début de l'émission. Quelques exemples en vrac de désinformation. Alors d'abord, la soi-disant crise de la masculinité. Tu l'évoquais, Michel, en début d'émission avec le travail d'Olivia Gazalet. En fait, cette crise de la masculinité, elle existe depuis toujours, depuis l'Antiquité. Et c'est plus un discours qu'un fait établi. Autre exemple de renversement des faits de la réalité, on l'a aussi évoqué, c'est le fait de nier l'existence du patriarcat. Au contraire, d'après les discours masculins, on serait dans un système de matriarcat. Les avancées des droits des femmes sont excessives et menacent désormais les hommes victimes du féminisme qui est allé trop loin. Et enfin, autre contre-discours qu'on a aussi évoqué, les femmes chercheraient à dominer le monde pour les masculins et à émasculer aussi les hommes tant qu'à faire. Même si elles sont minoritaires en fait à la tête des grandes entreprises, des gouvernements ou des États, elles tirent quand même les ficelles.
T'as le droit de pleurer, mon petit poussin, mon petit loupio. T'as le droit de pleurer quand t'as chagrin, quand t'as cœur gros. Pleure pas par-ci, pleure pas par-là, qu'ils te diront. ça fait des ordres. Un enfant, ça doit être mignon. T'as le droit de pleurer, mon petit marmot, K.O. comme ça. Mon grand garçon qu'attrape la lune avec les doigts. Si ça les gêne, laisse-les causer, ça, ça veut rien. Sont oubliés, combien parfois ça fait du bien. T'as le droit de pleurer. Va, t'as le droit de pleurer. Goutte de cœur. Toi aussi, mon cher adulte, mon cher ami, t'as le droit de pleurer quand c'est trop dur, quand t'as souci. Pleure pas par-ci, pleure pas par-là, qu'on te dira. Ça fait des ordres, les vrais hommes, ça ne pleure pas. T'as le droit de pleurer, je sais qu'on ne te l'a pas appris. Montrer les muscles, serrer les dents, gagner sa vie. Si ça les gêne, laisse-les causer, ça ne veut rien. Sans oublier que le mot chagrin est masculin. T'as le droit de pleurer, va, t'as le droit de pleurer. Pleurer, laissons vibrer, laissons frémir. Laissons pleurer des pluies douceurs, des pluies désir. Ne pleure pas, ne pleure plus, qu'on nous répète. Ça fait des ordres et ça dérange et ça inquiète. Laissons pleurer, suivre le cours, laissons nager. Au fil de l'eau, se dériver, se dériter. Laissons pleurer, prendre le large, oh laissons faire. Laissons pleurer les fleuves libres vers la mer. Et respirer, et respirer. Le sol pleure, soyez tout.
C'était T'as le droit de pleurer de Alissa Wentz.
Merci. Dans cette première partie d'émission, vous l'avez entendu, et nous aussi, hein, les discours sont plutôt inquiétants. Et on continue de réfléchir ensemble et on se demande comment on freine ces discours, quelles responsabilités on a, nous, femmes et militantes féministes. Et peut-être vous, là, les hommes qui nous écoutez. Pascal Antonio propose une conférence gesticulée intitulée « L'imposture du mâle alpha ».
Alors avant d'attendre Pascal Antonio, une petite parenthèse sur la conférence gesticulée qui est un outil intéressant qui a été popularisé par le militant de l'éducation populaire Franck Lepage. La conf gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire et politique qui se situe entre le spectacle et la conférence et qui mêle des récits de vie, des anecdotes perso, de l'analyse et des savoirs universitaires. C'est une prise de parole personnelle et politique élaborée au cours d'une formation collective le plus souvent. Et je trouve que c'est un outil vachement intéressant qui permet de questionner et d'analyser les mécanismes d'une domination dans un domaine donné.
Merci Natacha. On écoute Pascal Antonio. Je lui ai demandé comment lui est venue l'idée de cette conférence.
Alors cette conférence gesticulée, elle vient de deux impulsions. Une première très pédagogique. Je fais l'éducation populaire depuis un peu plus de 20 ans. Et le format conférence gesticulée, en fait, quand je l'ai vu sortir, m'a intéressé sur cette capacité à vulgariser des thèmes, à les rendre un peu plus audibles, à donc un petit peu élargir le spectre des personnes qui pourraient s'intéresser à des sujets qui sont compliqués, qui sont des voies difficiles à comprendre, racisme, sexisme, validisme, voilà, tous ces termes en isme qui sont des voies inaudibles pour beaucoup de gens, là on les rend disponibles. Et en fait, ce qui m'a déclenché réellement, c'est... moi, je fais du foot depuis que j'ai à peu près 6 ans, donc j'en ai 44 aujourd'hui, donc ça fait très longtemps que je fais du foot. Et des dingueries dans des vestiaires de foot, j'en ai écouté plein, des remarques sexistes, racistes, homophobes. Ah bon, alors je vais même pas sur la transphobie. On atteint des niveaux qui sont, pour moi, des fois ahurissants. Et je les entends, et je l'entends de bouche de certaines personnes que j'adore, qui sont des gens qui sont géniaux, qui sont des gens qui sont sympathiques, sensibles. En fait, je me dis, c'est quand même dingue. C'est des gens qui n'ont pas les outils pour verbaliser certaines choses, et c'est beaucoup plus simple de pas avoir envie de les écouter. Et en fait, c'est mes potes du foot, moi, qui m'ont donné envie de faire cette conf en disant, je vais essayer. J'ai écrit cette conf en pensant à eux, en disant, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils puissent écouter certains points de vue qui sont pas les leurs, et que ça leur donne pas envie de fuir en courant en disant, oh, j'ai pas envie de parler de ça.
Et figurez-vous que Pascal a appris plein de choses en travaillant sur ce sujet.
J'ai appris toute la vie. J'ai appris plein de choses, mais vraiment plein de choses, parce que je me considérais comme sensibilisé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sujets que je ne maîtrisais pas sur mon identité sexuelle, sur tellement de choses, sur le rapport des hommes à la santé mentale, qui en fait, il y en a pas. Les hommes ne vont pas voir de psy, ne se traitent pas, je suis resté sur une phrase quand j'écrivais la conf. Une amie donc qui était dans ce groupe qui m'a dit quelque chose un jour qui m'a marqué. Elle m'a dit derrière chaque homme des troncs souris, il y a au moins deux femmes quoi. Sa mère, sa femme, donc voilà, sa compagne, sa sœur ou sa psy quoi. Et j'ai trouvé ça assez juste et c'est vrai effectivement. Je pense faire partie de plusieurs hommes qui peuvent se dire déconstruits, même si j'ai un peu du mal avec ce terme. Grâce à des femmes qui les ont engagées à aller vers ces sujets-là.
Et ça fait écho à ce que tu disais plus haut, Natacha, là, cette question de la santé mentale, notamment les interventions de la journaliste Pauline Ferrari qu'on a entendue. Cette question, elle est importante. Hein, et puis, on a entendu aussi que une des cibles des masculinistes, c'est les jeunes. Du coup, utiliser la santé mentale, c'est globalement un processus qui est propre à toute forme de radicalisation, hein, peu importe d'où elle vient. D'ailleurs, c'est ce qu'explique Alexandre Ledray, qui est professeur de psychopathologie clinique et de psychocriminologie, dans un article autour d'une approche de l'engagement radical. Il explique qu'il s'agisse de gourous, des chefs armés de Daesh ou de masculinistes ou de l'ultra-droite, l'idéologie apparaît une fois la cible repérée. Et cette cible, en ce moment, c'est celle des jeunes hommes. Le 24 mars, la délégation aux droits des femmes au Sénat a tenu une commission sur la question de la radicalisation masculiniste et de l'impact de la santé mentale dans le processus. Là, c'est le sociologue Tristan Renard qui travaille au sein du CRESAM, le Centre de ressources en santé mentale pour la prévention des processus de radicalisation à Toulouse, qui explique ceci. En fait, peu importe les radicalités, djihadistes, survivalistes, de l'ultra-droite ou masculinistes, le genre est une obsession. Ces radicalités affirment un retour au naturel, en fait, aux origines, mais une des origines un peu mythifiées, et sont donc attentives à une logique de répartition genrée des comportements assignés aux individus. Un homme, une femme, c'est très précis et avec des assignations bien codifiées. Et il explique qu'il existe plusieurs degrés de radicalisation. Et là, ce qui inquiète quand même en ce moment, c'est les 20% de situations qu'il rencontre avec son équipe, puisque son pôle de sociologie est rattaché à un hôpital. Et donc, ces 20% de situations, c'est des jeunes qui vivent reclus, qui se déscolarisent et qui investissent à fond les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui provoque ça? On s'est déjà posé cette question. Peut-être que c'est générationnel. Peut-être aussi parce qu'on a imposé un modèle de masculinité où on ne parle pas des émotions depuis des lustres. Peut-être aussi parce qu'entre pairs, il n'y a pas cet espace pour avoir des conversations profondes, intimes. En tout cas, Pascal Antonio a réfléchi à ce sujet. Il nous partage son expérience.
J'ai 44 ans, j'ai deux enfants qui ont 10 et 8 ans. Et à l'aune de cette conférence, je me suis dit « Ah bah la vasectomie, c'est un truc qui pourrait être intéressant. » Et pour faire une vasectomie, il faut voir un urologue. Donc, je n'avais jamais vu d'urologue de ma vie, pas une seule fois. Et en fait, il m'a posé des questions sur mon intimité sexuelle, dont j'avais jamais osé parler à personne. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'on aurait dit qu'on ne peut pas en parler. Et en fait, je me suis retrouvé à me rendre compte que si je me laisse aller dans mon intimité, qu'en fait, l'urologue me dit « vous avez un frein trop court ». Et effectivement, c'est vrai, j'ai un frein trop court. Ce qui fait que quand je suis en érection, j'ai mon gland qui se dévie un tout petit peu et ça fait mal. Sauf que pour moi, c'était normal. Et pour moi, tous les hommes avaient ça et tous les hommes avaient un peu mal et c'était OK. Sauf que, en gros, lui m'a dit que c'était opérable. Donc, je suis reparti de ce rendez-vous. Enfin, je suis rentré pour la vasectomie, je suis reparti avec ça. J'en ai parlé, donc j'ai osé ensuite, grâce à cette conf, justement, dire, bah, va au bout de ce que tu as lu. Et, donc, j'en ai parlé avec deux, trois copains et qui m'ont dit, non, mais pas du tout, tu devrais pas avoir mal. Et en gros, ben, je me suis retrouvé quand même à me dire, c'est quand même fou. J'ai vécu avec ça de mes 18 à mes 44 ans. Je me suis opéré il y a un mois. Voilà. Et voilà, là, j'ai un champ de possibles totalement ahurissant devant moi. Et je m'en étais jamais rendu compte. Et je me dis, c'est quand même dingue que, me pensant voilà, sensibiliser, qu'il y a des choses qui ont totalement passé à travers.
Et voilà, vous savez maintenant, messieurs. Sans rire, on veut bien des retours sur ce partage de Pascal Antonio, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les femmes, on a plutôt ce genre d'espace pour parler de notre corps, de notre santé, de notre sexualité. On en a fait plein d'émissions, d'ailleurs. Et c'est vraiment une richesse, les gars. Hein. D'ailleurs, la sexualité, c'est un sujet qui fait parler les masculins, donc ça montre bien que vous avez peut-être besoin d'en parler. Donc vous, là, les autres, les hommes qui nous écoutez, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il faudrait en parler plus? Pascal Antonio parle d'ailleurs de sa première fois dans la conférence.
Je parle de ma première fois. Derrière ces enjeux-là, c'était aussi le fait de rentrer dans un groupe qui serait plus valorisant. Un homme qui est vierge, c'est un homme qui est peu considéré par ses amis, par lui-même. La société l'invite à le dire, ça va pas. Et donc derrière moi, c'était aussi de raconter le fait que quand je suis sorti en gros du groupe des puceaux, quoi, concrètement, ça a un peu changé ma vie, quoi. Et que derrière, bah, c'était plus subtil et que derrière les enjeux de première fois, il y a des enjeux qui sont plus difficiles, la performance, la taille du sexe, c'est ce que je parle sur ma première fois. Ça a permis de faire remonter ces enjeux-là qui avant pour moi n'existaient pas. Et derrière la performance, et ben il y a toutes les pratiques addictives qui vont derrière, la masturbation, la consommation de la pornographie. Et c'est des choses qui m'ont accompagné en tant qu'homme toute ma vie, qui m'accompagnent encore aujourd'hui et dont on ne parle jamais. Je suis à peu près convaincu que ça concerne, j'ai envie de dire peut-être tous les hommes, j'ai un peu cette sensation-là, mais que c'est vrai que c'est quand même assez fou qu'on n'en parle pas, parce qu'en gros, on a des normes de société qui font qu'on ne parle pas trop de vie sexuelle, surtout pour les hommes. Les seules conversations que j'ai eues sur le sexe avec d'autres hommes, des amis notamment, c'est pour parler de performance. Qui a été le plus fort? Qui a le plus consommé? Qui dure le plus longtemps? Il y a ce terme facile, qui est la plus grosse, quoi. Et on parle de ça, mais jamais j'ai eu des conversations, je vous dis, à part dernièrement, sur des difficultés qu'on a en tant qu'homme à pas réussir certaines pratiques ou à pas être satisfait de certaines choses. Il y a toujours eu ce mythe de l'homme au grand sexe qui, en fait, au final, si on rentre dans les détails, est une autre difficulté en fait qu'il va devoir supporter parce qu'il peut faire peur et donc et on n'en parle jamais en fait et je pense qu'on devrait en parler cette conférence et c'est pour ça que j'ose entre guillemets pas l'impression d'être non plus si subversif que ça parler de cet enjeu-là en disant de manière insidieuse j'espère que derrière ça s'il y a des hommes qui viennent à cette conférence et qui entendent ça ils vont avoir envie de parler de ça avec peut-être d'autres hommes. Et que ça peut être... J'invite à le faire, parce qu'en fait, ça détend, quoi. Ça détend.
Pascal Antonio intervient face à des jeunes. Lorsque je l'ai rencontré, il était face à des lycéens. Voici le regard qu'il porte sur ce que lui disent les jeunes et sur le masculinisme.
Les jeunes que je rencontre, ils portent ce modèle. Et il y a quand même un mouvement que je trouve questionnant, un petit peu perturbant. C'est qu'on a des jeunes filles qui sont de plus en plus sensibilisées, qui vont de plus en plus nommer... ce que c'est que le patriarcat et elles vont essayer d'engager leurs camarades masculins à faire attention et regarder leurs privilèges et on a de plus en plus de jeunes garçons qui sont en résistance avec ça qui le vivent assez mal qui se ressentent dominés. Et c'est ce que je dis dans la conf hein, voilà je parle des masculinistes et j'explique que les masculinistes c'est un mouvement je parle plus d'un discours en disant c'est encore plus insidieux, on entend un peu partout. Et ce discours dit les femmes dominent la société aujourd'hui, les féministes dominent la société aujourd'hui, et donc les hommes sont vraiment en position de faiblesse, et c'est pas OK. Et les hommes souffrent très fort. Et ils doivent résister à ça. Donc, Et effectivement, tu as des jeunes garçons qui reprennent ce discours en disant « Attention, c'est quand même les femmes qui humilient les hommes aujourd'hui. » Et l'idée, c'est de leur apporter avec cette conférence des contre-exemples empiriques. Hein, je dis bien empiriques dans le sens... Il y a des références bibliographiques qui disent ça. Ils repartent avec la bibliographie. Allez lire si vous voulez lire. Mais je ne suis pas en train, je suis pas un influenceur qui a décidé de dire là aujourd'hui « Oui, ben, c'est plus compliqué, il y a des chiffres. » Qui sont existants. J'espère qu'ils iront les vérifier, mais effectivement, il est beaucoup plus marqué, en tout cas pour l'instant. Quand je propose cette conférence dans des lycées, je suis sur des publics qui sont captifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la classe est obligée de venir. Ils n'ont pas le choix, en fait, ça fait partie de leur heure de cours. Ils ne peuvent pas sécher, quoi, concrètement. Il y a des jeunes garçons que je vais énerver, que je vais agacer, qui n'ont pas envie d'écouter ça, des jeunes filles aussi qui n'ont pas envie d'écouter ça. Mais je pense que c'est nécessaire et que, en gros, si on reste sur un terrain de public conquis, on se fait plaisir, mais j'ai pas envie de dire que ça sert pas à rien. Ça sert toujours, mais je pense qu'on perd du temps.
Une des suggestions de Pascal Antonio pour pouvoir avancer, vous l'avez compris, c'est d'encourager les hommes à se retrouver entre eux à discuter.
Je pense que déjà au niveau institutionnel, c'est-à-dire notamment au niveau de l'école, il faut pouvoir créer des groupes de non-mixité. Je pense que c'est hyper important. Et en gros, pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, moi, quand je suis sollicité par des établissements scolaires, je propose le fait qu'il y ait des groupes de non-mixité et que je puisse parler qu'avec des garçons. Et on va me répondre, ce n'est pas possible, il faut que ça puisse concerner tout le monde. Et je comprends, évidemment, ce sujet concerne tout le monde pédagogiquement parlant. Et on parle bien d'une pédagogie, et ça ne représente que ça. Ce n'est pas du communautarisme, c'est juste un outil pédagogique, une manière pédagogique. Il serait intéressant de dire que voilà, je pourrais, par exemple, faire cette conf, venir accompagner d'une collègue féminine, et à la fin de la conf, elle part dans une salle avec les jeunes filles, et moi, je reste dans la salle avec les jeunes garçons, et on discute. Et on libère la parole. Je pense que, comme on a pu le voir sur un mouvement comme MeToo, c'était un grand mouvement de libération de parole. Et ça a fait du bien à de nombreuses femmes de pouvoir dire « J'ai vécu des violences physiques, psychologiques, les deux malheureusement, et je me libère de ça, j'en parle. » Et ça permet de faire avancer les choses. Donc je pense que la libération de la parole pourrait être nécessaire. Et à mon avis, elle permet de creuser certaines choses. Et avec les jeunes garçons notamment, qui sont en gros pour moi, d'un point de vue très numérique, une proportion de membres de notre société qui ont besoin d'avancer peut-être un peu plus vite que certaines femmes qui sont, on va dire, de manière systémique. Hein. Donc voilà, on regarde ça de manière collective, mieux sensibilisés à ces enjeux-là. Les garçons, il y a beaucoup de choses à faire. Et en gros, l'idée, c'est l'idée qui est derrière cette conf aussi, donc de dire, il faut se libérer de l'injonction qu'on nous fait en tant qu'homme de devoir être viril. Voilà, commencer par libérer la parole, faire des groupes de... Donc en parlant de soi, en racontant voilà, des anecdotes. Et ne serait-ce que de faire que ça, je pense, pour essayer de créer de l'empathie, parce que pour moi, c'est un peu l'enjeu. L'enjeu de société très politique, pour moi, c'est de dire, c'est un sujet qui concerne tout le monde, et de replacer des valeurs qui sont, pour moi, en recul absolu, c'est la tolérance. On ne se tolère plus. On ne supporte plus les gens qui sont pas comme nous. Et c'est de favoriser de l'empathie. Si on a de l'empathie sur les gens qui sont autour de nous, ça va peut-être développer une écoute. Et l'écoute, ça va peut-être développer le fait de changer certaines choses, de certaines pratiques.
Eh bien, au boulot, messieurs.
Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là.
Bon, les gars, il reste une course, hein. Allez, hein.
T'inquiète.
Faut rien lâcher.
On va s'entraîner.
Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. Accélère !
T'as vu comme il est fier de toi, ton père ?
Accélère !
Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok ?
Si mon père tombe dessus, je suis mort. Dégage.
C'est fini, y a plus rien, y a plus de championnat, plus de croix. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord ?
Qu'est-ce que tu fous, Willy ?
Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois ?
Vous ramenez ta gueule ici !
Papa !
Tu me fais honte, je passe pour qui, moi ?
La bande-annonce du film La Pampa, Ou comment, dans une bourgade paisible où la motocross est l'équipement de tout homme qui se respecte, un jeune adulte va découvrir l'homosexualité de son meilleur ami et ses propres émotions. C'est un très, 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 très beau film que je vous recommande vraiment et qui m'a permis de faire le lien avec deux autres très beaux films. Un peu plus daté, Le secret de Brokeback Mountain du réalisateur taïwanais Ang Lee et Le son des souvenirs sorti l'année dernière d'Oliver Hermanus. Et ce qui est intéressant dans ces films, c'est qu'on voit naître à l'écran d'autres formes de relations entre les hommes, hein, qu'il s'agisse d'une amitié profonde comme dans La Pampa, d'une histoire d'amour comme les deux autres films, d'admiration. Les hommes ici, même les plus jeunes, s'abandonnent à leurs émotions. Et je crois qu'en tant que femme, c'est très émouvant de voir ça parce que ça casse aussi les codes du cinéma classique, celui des Delon, des De Niro, des hommes forts et virils qui font les kékés. Ça donne ici à voir que les lignes bougent dans le cinéma, dans l'art, et ça apporte aussi un peu d'espoir. Ceci étant dit, une petite remarque, dans chacun de ces films, l'homosexualité est au cœur de l'histoire. Donc est-ce qu'il faut supposer qu'il faut se détacher de l'hétérosexualité pour laisser parler ses sentiments ? Mystère.
Ouais, tu disais en début d'émission, Michel, que pour Ghazaleh, la véritable révolution féministe ne pourra s'accomplir que si les hommes opèrent leur propre révolution culturelle en s'affranchissant de l'injonction à la virilité. Et toi, Élodie, tu demandes aux hommes qui nous écoutent de nous dire comment ils se situent. Eh ben, moi, j'ai un petit bout de réponse avec le documentaire qui s'appelle « Ce que cherchent les hommes » qui a été écrit par Guillaume Carrel-Billard, réalisé par Justin Vicablan en 2025. Le thème du film, c'est le grand-père de Justin, qui est veuve depuis 2 ans, et qui demande à son copain, donc ils sont jeunes, ils ont 25 ans, de se mettre en route. Ils emportent avec eux le portrait du Peugeot pour lui chercher une compagne. Et ils ont décidé de partir en vélo. Et en fait, Justin et Guillaume, ils vont dans les lieux où les femmes se retrouvent. Les femmes qu'ils rencontrent, bon, elles ne sont pas toutes jeunes, hein, c'est toutes des femmes de plus de 74 ans. Mais c'est intéressant parce que, ben, ils nous emmènent dans un atelier de centre social, dans un village de seniors. Et puis, ils interrogent ces femmes, ils échangent, ils plaisantent. Et puis surtout, ils écoutent ce que les femmes, elles ont à dire. Et est-ce qu'elles ont un homme dans leur vie ? Est-ce qu'elles sont en recherche ? Et surtout, qu'est-ce qu'elles demanderaient un homme pour recommencer une vie en couple ? Alors, ils continuent leur recherche dans un EHPAD. Et là, il y a des hommes, quelques hommes, hein, qui parlent peut-être pour la première fois, ce que tu disais tout à l'heure, de ce qu'est l'amour et de ce qu'est la relation avec une femme. Alors, les deux jeunes garçons, ils dorment, ils sont en vélo, donc ils dorment à la Belle Étoile. Ça incite justement à des moments de rien, des moments de silence, de réflexion, de discussion entre eux. Et en fait, ils cheminent dans leur tête et leurs pensées autant que sur les routes de l'Ardèche. Et jusqu'à rencontrer un groupe de paroles constitués par des hommes, on en parlait tout à l'heure, ils en ont rencontré un lieu où des hommes relativement mûrs s'écoutent, se disent, parlent de leurs émotions, rien à voir avec les groupes masculins dont on a parlé jusqu'à maintenant. Justin et Guillaume jouent le jeu puisqu'ils sont là, et moi je trouve que c'est l'espoir de d'une nouvelle génération. Je peux que vous conseiller de regarder ce film, il est diffusé encore sur France 3 Auvergne et encore pendant quelques mois.
Merci. Et moi, je vous conseille le livre « Être garçon, la masculinité à contre-courant ». C'est un livre qui est paru aux éditions Ricochet il n'y a pas très très longtemps. À la frontière entre une bande dessinée et un guide de bienveillance sur la masculinité, « Être garçon bouscule les codes et offre aux garçons et aux filles d'autres modèles pour s'épanouir en assumant sa personnalité ». C'est un livre qui vise plutôt les ados à partir du collège. Pour les adultes, je conseillerais la bande dessinée Testostérore de Luz, parue chez Albin Michel en 2023. Dans cette histoire, on a une épidémie qui fait chuter le taux de testostérone des hommes et c'est la panique chez les mascus. C'est très drôle, c'est très trash aussi et l'humour est assez décapant. Et plus sérieusement, je conseillerais aussi l'émission radio LSD, la série documentaire et la série qui a pour titre « Être un bonhomme » de Romain de Bec-de-Lièvre. C'est une enquête sur les masculinités contemporaines en 4 épisodes, autonomes et complémentaires. Et je conseille plus particulièrement, les 4 sont vraiment intéressants, l'épisode 3, La grande peur d'Alpha, qui s'intéresse au discours masculiniste au pluriel. Et enfin, pour finir, dans la collection Alt aux éditions La Martinière, un petit livre qui fait 32 pages et 3,50 euros, qui a pour titre « Masculinisme, pourquoi un tel succès ?». C'est un livre pour expliquer et combattre le masculinisme qui s'adresse aux jeunes à partir de 15-16 ans.
Et puis de mon côté, quelques albums jeunesse que j'aime beaucoup. Tout d'abord, et en plus il est très beau, Julien est une sirène de Jessica Love. C'est publié à l'école des loisirs et ça raconte le trajet de Julien et Mamita, sa grand-mère, vers le carnaval. Et au fur et à mesure du trajet, Julien rencontre des sirènes prêtes pour déambuler. Évidemment, Julien est lui aussi déguisé en sirène et ça ne dérange personne. Et puis le fameux manifeste « Ni poupée ni super-héros » par l'autrice illustratrice Claire Cantet, édité à La Ville Brûle. Et là, c'est une ribambelle d'enfants qui brise les codes dans ce manifeste antisexiste. Et pour les enseignants, et on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter, d'ailleurs on leur fait une petite dédicace, bravo à vous les amis pour le boulot. J'ai trouvé ce film qui peut être diffusé en classe, ça s'appelle Les Petits Mâles, c'est réalisé par Laurent Métry et Camille Froidevaux. L'idée c'est de donner la parole à une trentaine de garçons âgés de 7 à 18 ans, rencontrés partout en France et dans tous les milieux. Ils ont été interrogés sur les thèmes suivants, apparence physique, injonction esthétique, amour et amitié, sexisme et violence sexuelle, fluidité des genre et droits des personnes LGBTQI. En résonance avec leurs propos, des femmes qui ont l'âge d'être leur grand-mère déroulent le fil de leur vie et évoquent les hommes d'hier. Le contraste avec les garçons hommes de demain révèle l'ampleur des mutations en cours, explique le site internet. À découvrir donc sur le site www.lespetitsmales.com. Voilà, vous avez de quoi vous documenter, chers auditeurs et auditrices. Merci à mes co-animatrices. Merci à Jimmy, à la technique. On vous laisse le temps de digérer toutes ces réflexions. On vous souhaite un très très bon été et on vous retrouvera avec grand plaisir à la rentrée.
Depuis la préhistoire, il hante petit et grand garçon le fantôme.